beaucoup de fruits puissent tomber de cela aussi. Merci vraiment pour ces moments et bénis mon frère, Seigneur, fortifie-le, encourage-le ainsi que sa famille. Amen.
Je te laisse la place pour te dire quelque chose.
Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à tous nos visiteurs. On est en famille, alors sentez-vous à la maison. Hein. Je vais dire, j'ai un sentiment bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à cause de la louange. J'ai la sensation de ne pas être digne de me retrouver ici. C'est bizarre. Je crois que c'est la première fois que je vis ça. Alors, s'il y a un petit bug, pardonnez-moi. J'ai dit, c'est vraiment une sensation bizarre. Je n'ai jamais connu ça auparavant. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un exode dans la parole de Dieu. On va voyager un peu. J'avais à cœur de vous parler de la sainteté de Dieu. C'est peut-être ça, en fait, qui me trouble. Hein. Parce qu'évidemment, Dieu est saint. Dieu est trois fois saint. Évidemment, on est indigne par rapport à cela, bien sûr. Mais je ne sais pas, je ressens cette pression-là aujourd'hui beaucoup plus fort. Et ça me fait vraiment bizarre. En fait, je trouve que lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on connaît Dieu dans les débuts, la personne de Dieu, si je peux parler comme ça, a tellement de facettes qu'on a parfois du mal à appréhender vraiment Dieu, comment il est réellement. Il y a ce Dieu de l'Ancien Testament, vengeur, dur parfois, qui punit. Et puis il y a celui du Nouveau Testament, le bon berger. Entre ces deux personnes, je vais dire, qui n'en font qu'un, je veux dire, il y a parfois quelque chose qui est un peu difficile à appréhender, surtout au début quand on est chrétien, je trouve. Donc, j'avais à cœur de partager ça avec vous, et je me dis, la louange, finalement, c'est une belle illustration. Tous ces chants-là parlent de multiples facettes de la personne de Dieu, non seulement de ce qu'il fait, mais surtout de ce qu'il est. Et on pourrait parler de ses attributs, de sa personne, et on pourrait dire des tas de choses. Et comme je l'ai dit, j'avais à cœur de partager quelque chose par rapport à la sainteté de Dieu, mais ça va nous amener beaucoup plus loin, en fait. On va lire en parallèle deux textes. Donc, un texte dans le Deutéronome, au chapitre 7. Et parallèlement à ça, pardon, on va lire aussi... Apparemment, je ne parle pas assez fort. Ah, c'est le micro, ça. Je peux l'enlever, alors, le machin, là. Je me sens en cage avec ça. Ah, en plus, j'ai une grosse tête, ça sert. Voilà, c'est tellement qu'il y a dedans. Voilà. En fait, comme je disais, j'avais à cœur de vous parler de la sainteté de Dieu. Je me répète. Hein. Voilà. Et donc, on va voyager un peu dans l'Ancien Testament, et puis on va aller voir dans le Nouveau le résultat de tout ça. Donc, je l'ai dit, on va voyager dans le Deutéronome 7, on ne va pas lire tout le chapitre, bien sûr. Hein. Et une partie dans le psaume 106. On va voir ce que Dieu annonce, comment ça s'est déroulé. Voilà. Et puis, on ira dans le Nouveau Testament faire la conclusion. Voilà. Je vais poser le préalable, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 35, pardon, nombre 35, le verset 34. Ça va être le préambule, on va dire, de notre réflexion. Donc, vous ne souillerez pas le pays où vous allez habiter, et au milieu duquel, moi, je demeurerai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Donc, première recommandation de Dieu, point de départ de notre réflexion. On ne souillera pas le pays, ça s'adresse à Israël, bien sûr. Ne pas souiller le pays qu'ils allaient habiter, et parce qu'au milieu de ce pays-là, Dieu habitera, et parce qu'il est l'Éternel qui habitera au milieu d'eux, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est la clause principale du bail de location pour le pays de Canaan par le peuple d'Israël. Voilà. On va commencer tout de suite par le Deutéronome, chapitre 7. Et je vous propose de passer directement les versets 7, 8 et 9. Voilà. Pas mettre mes lunettes parce que voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de son peuple d'Israël ? Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ça, c'est bonjour pour l'orgueil, voilà. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc Dieu se choisit un peuple qu'il aime, pas un peuple grand, fort, puissant, ça, mais un peuple qu'il lui aime. C'est son choix, lui. Et il promet à ce peuple-là la miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui lui obéissent. Et pour eux comme pour nous, on est loin de pouvoir avoir ça sur 1000 générations tellement on est désobéissant. Alors, recommencer au début, les versets 1 et 2 du Deutéronome 7. On va voyager un petit peu donc, mais on va rester dans ces livres-là. Donc voilà le plan, le projet de Dieu pour son peuple à ce moment-là. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et tu l'auras chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, et tu ne concluras pas d'alliance avec elles, et tu ne feras pas grâce. Là, ça fait déjà un choc par rapport à nous, avec, on va dire, le Dieu du Nouveau Testament. Je vais parler comme ça, on se comprend mieux. Ça fait un choc par rapport à nous. On se dit, ah, jamais Jésus parlerait comme ça. Je veux dire, il nous entraîne plutôt à nous aimer les autres, à user de miséricorde, de bonté, de, voilà, faire aimer notre prochain, comme on doit l'aimer normalement. Et là, je veux dire, le Dieu de l'Ancien Testament, je vais faire pour le moment une distinction, ben lui, il appelle plutôt à dévouer par interdit. Alors, il y a des gens qui essaient de tordre dévoué par interdit pour dire que... Mais en fait, si vous relisez Lévitique, dévoué par interdit, c'est bel et bien détruire et tuer, anéantir, en fait. Voilà. Ce qui se passe, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, et Dieu te les livre. Oh, c'est super. Si on peut commencer une guerre comme ça, c'est bien, sachant qu'on a déjà plus ou moins gagné, puisque c'est Dieu qui décide de tout, et même s'ils sont plus forts et même s'ils sont plus nombreux, la victoire est à la clé. Ce qui suit, c'est plus délicat. Tu dois les battre. Non seulement Dieu les donne, mais toi, tu dois les battre. Donc, ça veut dire que tu as une part à faire. Tu dois les battre, tu dois les dévouer par interdit, donc les tuer. Pas traiter d'alliance avec eux. Pas de grâce non plus. Ça, c'est le contrat qui est dressé avec Dieu. Dévouer par interdit, pas d'alliance, pas de grâce, les battre. Et je me dis, si moi j'avais été dans cette armée-là, à l'époque-là, bah, dans le combat, un homme qui se bat avec un autre homme à l'épée, on va dire comme à l'époque, sûrement, bah, oui, pas le choix. Entrer dans une maison, tuer femme, enfant, tout ça, avec des armes blanches, ça c'est une autre musique, c'est pas certain. Déjà là, je suis certain que j'aurais probablement désobéi à un moment donné ou à un autre. Pour continuer à étayer notre histoire, on va prendre Lévitique 18, les versets 21 à 26. On va comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà, j'ai pris une partie du chapitre, mais si vous voulez le lire en entier, vous aurez beaucoup plus de détails. Hein. Donc le chapitre 18 du Lévitique, partie du verset 21. Voilà. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est toutes ces choses qui se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé. Je suis intervenu contre sa faute et le pays a vomi ses habitants. Vous observerez donc mes prescriptions et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces horreurs, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui séjourne au milieu de vous. Voilà, ça c'est ce qui est reproché aux sept nations plus puissantes et plus fortes. C'est bon, l'immoralité sexuelle, la prostitution, l'idolâtrie, les meurtres, en fait. Et le remède qui est proposé, ben, en fait, c'est l'obéissance à la loi et au commandement de Dieu. On va voir maintenant comment traiter l'infection. On retourne dans Deutéronome 7, les versets 3, 4 et 5. Je sais que ça va vous paraître un peu long, mais il faut le temps de poser les jalons. Hein. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leurs égards. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs statues. Donc, pas d'union avec ce peuple-là, avec ces peuples-là. Il faudra renverser les autels, briser les statues, abattre les idoles, brûler leurs images taillées. Il y a un danger, en fait, pour le peuple de Dieu. Si Dieu demande toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un gros danger pour eux. Et ce danger, c'est quoi ? Ben, c'est de détourner de Dieu les fils et les filles pour servir d'autres dieux. Et donc, le risque, eux aussi, d'être détruits, puisque ces nations-là seront détruites à cause de ces pratiques-là. Le risque pour le peuple de Dieu, c'est de subir la même sanction. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il faut être aussi sévère ? Là, on dit que c'est un Dieu qui fait miséricorde, c'est le Dieu de la grâce. Hein ? Mais on voit qu'au verset 6, en fait, le peuple de Dieu est un peuple qui est saint, choisi par Dieu. Le verset 9 nous dit que Dieu est le Dieu qui est fidèle, qui garde l'alliance. Le verset 16, toujours dans le chapitre 7, nous dit qu'il rappelle à nouveau le danger. Et surtout, il rappelle de ne pas user de pitié. Voyons maintenant le verset 21, dans Deutéronome 7, 21. Tu dis, ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. C'est un combat qui ne se fera pas tout seul. Le verset 22 est quand même surprenant un peu, si tu peux l'afficher aussi. Il dit, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Il y a vraiment un travail qui se fait avec Dieu. Ils doivent bien sûr combattre, ici et là, mais il y a la garantie que Dieu qui est derrière va petit à petit chasser ces nations-là. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. En fait, quand il y a une guerre comme ça, ben, il y a des prédateurs qui disparaissent. Et le pays peut être ravagé par des animaux parce qu'il y a un déséquilibre, on va dire, dans le biotope. C'est un peu ça l'histoire, en fait. Donc, on va rappeler la méthode qui est donnée au verset 25 et 26. Il faut brûler des images taillées. Parce qu'il y a un danger. Affiche plutôt 25 et 26, parce qu'il y a des éléments nouveaux. Donc, versets 25 et 26. Ah ben, on les a déjà mis. Vous brûlerez au feu les statues de leur Dieu. Tu ne convoiteras ni l'argent ni l'or qui sont sur elles. Tu n'en prendras pas pour toi, de peur que ça ne devienne pour toi un piège, car l'Éternel, ton Dieu, en a horreur. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme elle, voué à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. En fait, ça va vraiment loin. C'est que même ce qui va être détruit, même si c'est recouvert d'or, d'argent, même si c'est précieux, ça ne doit pas, on ne doit pas l'utiliser, on ne doit pas le récupérer. Même si c'est quelque chose qui peut nous rendre prospères. Et on va voir même, par exemple, dans des histoires avec le roi Saül, quand il doit dévouer des villes par interdit et ne pas prendre le troupeau, Saül va désobéir et prendre quand même les troupeaux. Donc, et il devra rendre compte à Dieu pour ça aussi, à cause de cette désobéissance. Quand Dieu disait dévoué par interdit, c'est-à-dire que rien ne devait être récupéré. Et faire entrer ça dans sa maison était considéré comme une abomination. Donc, c'était vraiment important. Le danger vraiment de prostitution, d'idolâtrie, tout ça, était vraiment quelque chose qui était vraiment. Le risque était vraiment très grand que ça puisse arriver. Ça, c'était donc le programme qui était fixé par Dieu pour qu'Israël puisse entrer en possession du pays promis. Alors maintenant, on va passer au psaume 106 et on va voir le déroulement de l'histoire. Donc le psaume 106, les versets 1 à 3. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Qui dira les exploits de l'Éternel ? Qui fera entendre sa louange ? Heureux ceux qui observent le droit, qui pratique la justice en tout temps. Ah ben c'est parfait, tout s'est bien passé, ça a été nickel, ça a bien fonctionné, c'est de la louange donc, c'est parfait. Ah, on va voir à partir du verset 6, 7 et 8, un peu ce qui s'est passé réellement. Donc psaume 106, 6, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des fautes, des méchancetés. Nos pères en Égypte n'ont pas discerné tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes actes bienveillants. Ils furent rebelles près de la mer des joncs. Mais il les sauva à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Et le psaume 106, en fait, va nous énumérer tous les pieds de travers qui ont été faits par eux. Donc, il nous rappelle aussi, versets 10 et 11, la miséricorde de Dieu. On va passer au verset 14 et 15. Dans les déserts, ils furent remplis de convoitises. Ils tentèrent Dieu dans la terre aride. il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur personne. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste malgré la désobéissance. Les versets 16 et 17. Dans le camp, ils furent jaloux de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle recouvrit la troupe d'Abiram. Donc on voit que Dieu agit quasi instantanément. Il se passe quelque chose, boum, la sanction tombe tout de suite. Les versets 19 et 21. Ils firent un veau en Horeb et ils se prosternèrent devant du métal fondu. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des œuvres redoutables sur la mer de Jon. Tout le monde se rappelle, au moment où Moïse est là sur la montagne pour aller chercher les 10 commandements, et Claire descend 40 jours après, ils ont fait un veau d'or, ils se prosternent devant, et ça tourne à l'orgie en fait. Les versets 24 et 25. Ils méprisèrent un pays enviable, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente et ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Les versets 28 et 29. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des sacrifices destinés à des morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs agissements et une plaie fit irruption parmi eux. Mais surtout, le plus intéressant, ça devient les versets de 34 à 38. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait indiqués. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent à imiter leurs œuvres. Ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Voilà. Tout ce que Dieu avait demandé, ils ne l'ont pas fait. Et on s'est dit, mais au départ, on dit, mais quand même, Dieu est dur, pourquoi tuer ces populations? Pourquoi? Il y a sûrement moyen de faire autrement. On peut sûrement faire autrement. Il y a sûrement une autre solution que de tuer, de détruire cette nation. Mais non, si Dieu l'a demandé, si Dieu a demandé d'être aussi radical, c'est qu'il y avait justement une raison. Et la raison se trouve là. Au psaume 106, on a ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Et tous les dangers qui les menaçaient, sont tombés dedans. Il y a eu des sacrifices humains avec leurs enfants. Il y a eu des alliances, des mariages entre les populations cananéennes et eux. Et au final, ils ont commencé à servir les idoles. Et voilà. Et Dieu s'est enflammé de colère contre eux. Voici comment Israël a rempli sa part du contrat d'alliance avec l'Éternel. Si tu peux mettre 1 Jean 2, les versets 15, 16 et 17, s'il te plaît. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la liste. Non? Ah. Pardon. Voilà. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, donc Jean. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait. Ah, c'est 15 à 17, pardon. 15, 16, 17. C'est 18, ça, hein? Ah. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et là, clairement, pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, dans le pays de Canaan, ils ont clairement aimé le monde, tout ce qui était autour d'eux. Ils se sont laissés séduire par tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et au lieu d'être les témoins de ce que Dieu était, au lieu de montrer une image de Dieu à ces nations-là, au lieu d'être ce peuple de Dieu qui lui montrait Dieu, ils ont fait l'inverse. Donc, on va voir les conséquences maintenant. On retourne dans psaume 106, oui, le verset 40, psaume 106, 40. En fait, 40, 41, 42 et 43. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Elle prit en horreur son héritage. Il les livra aux mains des nations. Ceux qui l'haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leurs mains. Bien souvent, il les délivra, mais se montrèrent rebelles dans leurs desseins et s'enfoncèrent dans leurs fautes. Le verset 44, pour le résultat du contrat. Il arrêta sa vue sur leur détresse lorsqu'il entendit leurs cris. Il vit leur détresse, il a entendu leurs supplications. Il se souvint favorablement de l'alliance, parce que Dieu, c'est lui le garant de l'alliance, ce n'est pas nous. Et il a fait en sorte que ses ennemis puissent avoir compassion d'eux. Tu peux passer au verset 47, si tu veux. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. On est toujours dans le psaume 106. Hein? Voilà. Rassemble-nous du milieu des nations et que nous mettions notre gloire à te louer. Après ça, on va prendre un passage parallèle. Mais ce qu'on peut déjà ressortir de ça, c'est qu'il y a une chose qui est absolument importante et encore pour nous aujourd'hui, et on n'a pas encore été voir dans le Nouveau Testament, c'est que face au péché, il faut être radical. Et le bon exemple, c'est Jésus qui dira que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux arracher ton œil et le jeter pour entrer dans le royaume des cieux, avec peut-être un œil en moins, mais être certain d'y entrer. Ou si ton bras est une occasion de chute, ou quoi que ce soit. Si il y a des personnes qui sont tombées peut-être dans certains excès, ou que ce soit peut-être drogue, alcool, pornographie, ou n'importe quoi d'autre, le seul traitement doit être radical. Dieu a toujours été radical avec les situations de péché extrême, de violence. Et nous, dans nos vies, parfois, il peut arriver qu'on tombe sur quelque chose qui nous domine, qui nous bat. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu, mais en même temps, on a besoin d'être radical contre notre adversaire, contre ce qui nous fait la guerre à nous, contre ce qui veut nous empêcher, justement, un jour, d'être sauvés. On va prendre 1 Chronique 16, les versets 35 et 36. Et là, c'est le roi David qui vient consacrer l'Arche d'Alliance après qu'elle soit revenue de chez les Philistins. « Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et arrache-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. » Donc, c'est un rappel du psaume 106. Et on va voir dans le Nouveau Testament, en fait, que ce n'est pas innocent qu'il fasse enlever des nations, justement, que le peuple de Dieu doit sortir des nations. Voilà. Ça, donc, j'ai dit, c'est David à ce moment-là qui fait la nouvelle dédicace à l'Arche d'Alliance après qu'elle soit revenue. Mais on peut se dire, oh, ben, ok, ça va, on a la solution, maintenant on a compris comment ça marche. Il n'y a pas de problème, on sait que ben, si on met le pied de travers, il y a des solutions. Mais ben, non, ce n'est pas aussi évident en fait. En fait, si vous vous rappelez bien, chaque fois qu'il y a des situations comme ça, et la première, on va dire, la première où la méchanceté vraiment est à son comble, et où Dieu est obligé d'agir, c'est le déluge. Le déluge, c'est ce qui se passe. Le péché est tellement énorme, mais que Dieu se repent, et la création entière est noyée et disparaît, sauf Noé et sa famille. Après, il y a une deuxième situation qui arrive, et sûrement vous vous rappelez l'histoire de Sodome et Gomorre, où Dieu dit lui-même qu'il va descendre aller voir si ce qu'on lui dit est vrai à propos de ces villes, avec le jugement qui tombe dessus, la pluie de feu qui tombe sur les villes disparaissent. Donc, à des situations comme ça, qui sont extrêmes, eh bien, Dieu agit parfois d'une manière très radicale. Et on se dit, pourtant il est Dieu, pourtant il est tout-puissant, mais pourquoi il agit comme ça? Il agit comme ça parce que le péché est très puissant aussi. Joseph s'enfuit tout nu quand la femme de Potiphar l'a convoité. Beaucoup n'auraient pas fui. Peut-être Potiphar n'aurait rien su. Mais Joseph, il s'enfuit tout nu. Parce que s'il serait resté, il aurait péché. Une femme nue qui tourne autour d'un garçon, ça ne dure pas longtemps, hein. Ou alors il n'est pas normal. Voilà. On va passer maintenant dans la réalité d'aujourd'hui. On va passer dans l'Épître aux Romains. Pourquoi l'Épître aux Romains? Parce qu'elle nous parle aussi du peuple d'Israël et de son élection. On va commencer dans Romains 9. Romains 9, les 5 premiers versets. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, hein. Donc il n'y a pas mieux que lui puisqu'il fait partie du peuple juif. Il était persécuteur de l'Église et va devenir théologien chrétien. Donc, on peut dire qu'il est, la personne adéquate. « Je dis la vérité en Christ et je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, donc maudit, et séparé du Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses, les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Paul a une grande souffrance. C'est un juif. Et il voudrait que tous les juifs puissent avoir part à ce que lui a part. Il souffre pour les siens, pour son peuple. Comme il dit, c'est le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple élu. Ils ont l'adoption. Dieu les a adoptés. Ils ont la gloire, les alliances. C'est avec eux que Dieu a fait des alliances. Ils ont la loi. Moïse a reçu la loi pour le peuple. Ils ont le culte, les promesses, les patriarches. Même le Christ est issu de leur peuple. On passait aux versets 24 et 25. Chapitre 9, les versets 24 et 25. C'est-à-dire qu'il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre eux les païens. Ah tiens, une nouveauté. Comme il est dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Il y a quelque chose de nouveau qui entre là. Il y a une réalité qui est nouvelle par rapport à ce peuple d'Israël. C'est que ceux qui ne faisaient pas partie du contrat, maintenant ils viennent d'entrer dedans. Ceux qui n'étaient pas le peuple deviennent le peuple. Ceux qui n'avaient pas été appelés ont été appelés. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça change des nations qui devaient être détruites. Là, c'est différent. Et il ne dit pas qu'à la limite, il n'y a pas des gens qui venaient de pays où vraiment ils étaient dans des situations pareilles. Quoi. On va prendre Romains 10, 4. Allez, on va voir aussi qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé, Romains 10, 4 ? Attends, l'appareil chauffe un peu. Hein. Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. En résumé, l'apparition de Jésus-Christ veut faire en sorte que le judaïsme devait disparaître. Comme ils ne l'ont pas reconnu comme Messie, il y a toujours des Juifs aujourd'hui. Mais la continuité, c'était que normalement, le peuple de Dieu reconnaisse son Messie, le judaïsme, c'était fini, en fait, en tant que je dis que le peuple de la loi et tout ça. C'était une nouvelle ère qui devait commencer. Donc ici, il dit bien, ce qui a changé, c'est que Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tous. Donc la justice, on peut la lier au salut, en fait. Hein. On va retourner dans le chapitre 9, les versets 30 à 33. Je vous fais voyager un petit peu. C'est pour enlever les poussières, il y a la Bible. Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui recherchait une loi qui donne la justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres, et se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les païens, nous, ont obtenu justice par la foi, par la foi en Jésus, mais eux, comme ils avaient la loi, ils ont tenté d'arriver à leur salut en obéissant à la loi. Et ils n'y sont jamais parvenus non plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La venue de Jésus est devenue pour eux la pierre d'achoppement. Et c'est là-dessus qu'ils butent. On va continuer notre investigation plus loin. On va passer au chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. En fait, confesse, là, dans ce sens-ci, c'est si tu prends position fermement de ta bouche le Seigneur Jésus, donc si tu le confesses, si vraiment tu le revendiques, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et ça, c'est toujours valable aujourd'hui. Et si aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne l'a pas encore fait, mais la parole de Dieu te dit que si aujourd'hui tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, alors tu seras sauvé. Tu as juste cette démarche-là à faire. La porte est ouverte, tant qu'il n'est pas revenu, l'invitation est lancée. Comme il dit dans l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je, si quelqu'un entend, qu'il ouvre. C'est comme une porte de façade, hein. La poignée elle est à l'intérieur, à l'extérieur il n'y a pas de poignée. Donc c'est vous qui devez ouvrir. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, si vous avez envie d'avoir part à ce salut-là aujourd'hui, alors vous n'avez qu'une chose à faire, reconnaître publiquement, confesser, et vous serez sauvé. Ce n'est pas compliqué en fait. Et en fait, comme ce n'est pas compliqué du tout, ça n'a jamais été possible pour certains, ni pour Israël en fait. Eux, ils avaient eu un tas de choses, il y avait toute une histoire, il y avait tout un bagage énorme qui était là, la sortie d'Égypte, les tables de la loi, l'arche d'alliance, toute leur histoire, l'exil, tous les prophètes, tout ça. Et maintenant, il suffit juste d'avoir foi en Jésus pour être sauvé. Et c'est ça que c'est compliqué pour eux. Alors, si tu confesses, si tu prends position de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Il n'y a pas l'air fort convaincu, hein? Il faut prendre position publiquement fort, hein? Donc, est-ce que, dans tout ça, est-ce qu'on peut dire que finalement, Dieu a rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté Israël? Romains 11, 1. On ne va pas entrer dans le débat qu'il y aura beaucoup de juifs sauvés, pas beaucoup. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, donc je ne discute pas de ça. Donc, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes, non. Car moi aussi, je suis israélite, de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Il n'a pas rejeté, puisque les premiers étaient tous des juifs, pour ainsi dire. Loin de là. On va passer au verset 25 et 29. Voilà. « Ce que je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, et après on va parler du mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Voilà. Donc, tout Israël sera sauvé. En fait, ici, une partie a été endurcie. En fait, c'est pour exciter la jalousie du peuple d'Israël, pour les amener à rechercher ce que les païens ont pu avoir. Tout Israël et les païens, en fait, ça forme un seul peuple. Et là, on en vient à ce mystère. Le mystère, c'était quoi? C'est quelque chose qui était caché depuis longtemps, que personne ne pouvait voir, ne pouvait connaître, mais qui n'apparaît finalement qu'après la Pentecôte. C'est au moment où les païens entrent finalement dans le peuple de Dieu. C'est au moment où le salut est offert, où ils reçoivent tous le Saint-Esprit, et tous deviennent enfants de Dieu. Et tous font partie du peuple de Dieu. Et ils viennent s'ajouter, en fait, à tous ceux qui sont sauvés, on va dire, de l'alliance ancienne, donc de la première alliance du peuple d'Israël. Et ça, c'est le mystère qui était caché dès le départ. Le verset 27 dit « Mon alliance avec eux ». Le 28 dit qu'ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, malgré tout ce qui a pu être fait, malgré tous les péchés qui ont pu être comptabilisés, Dieu dit qu'à cause de leur Père, ils sont aimés. Et ça, ça nous rappelle une chose, que le garant de l'alliance, c'est bien Dieu. Et que si ça ne tenait qu'à nous, finalement, combien de fois on n'aurait pas pu lâcher la main de Dieu, abandonner? Mais non, lui, comme il a fait alliance avec nous, cette alliance fait qu'en sorte, toujours il viendra nous rechercher et nous ramener. Évidemment, sauf si je commence à mener n'importe quelle vie. Hein. Je ne parle pas d'assurance du salut ou quoi que ce soit, mais on est dans une démarche de sanctification. Ce qui est important de se rappeler, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Tu étais appelé, ce n'était pas une erreur. Tu es parti peut-être pendant un temps. Ouais. Dieu ne se repent pas. La porte est toujours ouverte. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a donné. Alors, comment vivre face à cette nouveauté pour ces gens-là? Qu'est-ce qui a changé pour Israël? Il y a une nouvelle alliance. Et on a participé tout à l'heure, à Corinthiens 11, 25. Voici la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance que Dieu a donnée. La coupe qu'on a bu tout à l'heure, qui nous unit les uns les autres, nous unit à tous ces gens-là. C'est la nouvelle alliance en son sang. Et on en fait tous partie. Pourquoi est-ce qu'il a fallu une nouvelle alliance? Parce qu'ils étaient incapables de remplir les clauses de la première. Et Dieu sait très bien que, puisqu'ils n'y sont pas parvenus, il a dû faire le travail lui-même. C'est lui-même qui a dû régler le problème. Romains 11, 32 nous dit une chose, pour soulager un peu la conscience de certains. Romains 11, 32. Je crois que je ne l'ai pas mis non plus sur la liste. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Non, quand je désobéis, ce n'est pas de ma faute. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc le plan de Dieu, déjà, dès les origines, dès le départ, a fait en sorte que il ne pouvait pas avoir des gens parfaits qui seraient sauvés en obéissant parfaitement. Je veux dire, tous les hommes étant enfermés dans la désobéissance pour qu'on puisse voir cette miséricorde-là. Alors, à partir de là, quel constat est-ce qu'on peut dresser? On voit que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage. Ils sont, le peuple crie d'être en esclavage en Égypte depuis 400 ans à peu près, même un peu plus. Dieu entend les cris de son peuple et tout, mais il va susciter quelqu'un, Moïse. Et Moïse va en fait les faire sortir de ce pays-là, avec tout ce qu'on connaît, les plaies, les prodiges, les miracles qui se sont passés dans le désert pendant 40 ans. Ils ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans tellement ils ont murmuré et râlé, qui fait que la génération qui a pleurniché pendant 40 ans, elle est morte dans le désert. Et ceux qui ont entré dans Canaan, c'était la génération suivante. Donc Dieu les a conduits dans un pays d'abondance. C'était un pays où il y avait tout, en fait. Le pays où coule le lait, le miel. Et le problème, il fallait conquérir ce pays-là. Il fallait anéantir les populations cananéennes, profondément dépravées, parce que le danger d'être contaminé par leurs pratiques était là, et ça pouvait les entraîner là-dedans. Mais qu'est-ce qui provoquait ça, en fait? C'est la nature même de Dieu. Pourquoi est-ce que pour Dieu, ça ne passait pas? Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est trois fois saint. Dieu est tellement pur qu'il ne peut pas avoir le mal. En sa présence, il n'y a rien d'impur qui peut subsister. On voit que dans toute une série de passages, je ne les ai pas pris parce que je ne vais pas je veux dire, élargir le débat. Mais la pureté de Dieu, c'est quelque chose d'incontournable. C'est quelque chose auquel on ne peut pas faire l'économie. Si vous vous rappelez la tenue du grand sacrificateur, il avait un bonnet avec dessus un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, une bandelette, où il faisait écrit « Sainteté à l'Éternel ». Chaque fois, c'était lui qui se présentait devant Dieu. Et ce qui était rappelé, c'était la sainteté de Dieu dans son office. Il y a aussi le fait que Dieu s'est choisi un peuple. On dirait qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. On aurait été embêtés s'il avait choisi les Flamands, nous. Ah bon, heureusement, il ne l'a pas fait, Amy. Il a pris Israël. On aurait peut-être un gouvernement. En fait, Dieu s'est choisi un peuple. Donc, premier élément, Dieu est très saint. Et Dieu s'est choisi un peuple. Évidemment, le peuple qu'il choisit, il doit être à l'image de Dieu. Donc, il y a des exigences envers ce peuple-là. Donc, c'est un peuple qui est mis à part pour montrer qui est Dieu aux nations alentour. Et ce qui devait se passer, c'était qu'eux qui devaient influencer les autres. Mais le problème, c'est que c'est eux qui se sont fait influencer par les autres. La profondeur du péché était telle que la solution a dû être très forte, radicale. Comme je vous l'ai dit, il y a eu le déluge, il y a eu Sodome et Gomorre. Et on peut parler aussi de Corée, la révolte de Corée, qui a donné, ils ont disparu enfouis dans la terre. C'était le même châtiment pour Canaan. Israël a désobéi, il a reproduit les exactions des Cananéens. Rappelez-vous le psaume 106, les versets 34 à 38, où ils ont fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas. Ils n'ont pas laissé finalement à Dieu d'autre choix que de les punir. Et pourtant, au bout de tout, quand on arrive au bout du psaume, il a quand même écouté leurs supplications et leurs souffrances, et il est quand même intervenu en leur faveur. Le texte nous dit que même leur ennemi, Dieu a suscité en eux la compassion pour eux, de sorte que ça a atténué en fait leur punition. Donc même si l'idolâtrie, la rébellion et l'incrédulité sont revenus après cela, il reste de tout cela quand même ce mystère qui est caché de tout temps. Un peuple est composé d'une partie qui était fidèle dans le peuple d'Israël et des païens, ce qui a donné l'Église. Et ça, c'est un projet de Dieu qui remonte aux origines, en fait, dès le départ. Ce n'est pas un plan de secours. Ce n'est pas dire « Ah, ça n'a pas marché avec Israël, il faut que je trouve autre chose ». Non, c'est comme ça dès le départ. Vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir plein de... Surtout dans Ésaïe, on en parle assez bien. C'était pas, comme je l'ai dit, ce n'était pas un plan de secours, mais... Ce qui se pose comme question pour nous aujourd'hui, c'est mais comment faire alors pour honorer et glorifier Dieu, pour ne pas tomber un peu dans ce piège qui est tombé avec le peuple d'Israël? Finalement, on n'est pas différent d'eux et on peut faire la même chose. Et on est confronté finalement un peu à ces mêmes défis. On est environné du monde avec toutes sortes de pratiques, avec les réseaux sociaux, on est bombardé par un tas de choses. Et quelque part, on doit garder, nous, notre foi, on doit garder notre regard fixé sur Jésus et ne pas se laisser entraîner par tout ce que le monde propose. Et il propose un tas de choses. Il propose un tas de religions, il propose un tas de divertissements. La moralité est de plus en plus élastique. Je veux dire, on ne sait pas où ça va nous mener encore dans le futur, parce qu'il y a des tas d'éléments qui sont négatifs. On parle à chaque fois d'abaisser la majorité sexuelle, de reculer les dates les plus possibles pour les avortements. J'allais dire, il y a des pays où on part de supprimer la majorité sexuelle et où les relations avec des enfants seront permises, comme le Japon. J'allais dire, on ne sait pas comment ça va arriver, mais on voit qu'avec la mondialisation, les idées qui sont dans un pays arrivent très vite dans un autre pays. Et maintenant, dans les systèmes de gouvernement tels qu'on a, on ne vote plus des lois comme avant. On vote des lois pour répondre à nos besoins. Mais quand les besoins sont illégitimes, le mariage homosexuel, la procréation assistée, tous ces trucs-là, je vais dire, en fait, sont des lois. Les lois ont été créées par les besoins des gens, mais pas pour autre chose. Ce n'est pas des lois qu'on avait décrétées avant pour vivre ensemble et pour que le pays soit organisé et structuré maintenant. Ces lois-là sont faites pour répondre aux envies, aux désirs des gens. Et si dans 20 ans, on se dit maintenant, on peut coucher avec un chien, papa, je te présente ma fiancée, voilà, voilà. Mais peut-être qu'on dira, il y a une loi maintenant, c'est plus interdit. Ce qui était interdit avant, il n'était plus. Là, je l'exagère, peut-être, mais bon, c'était pour dire de forcer un peu le trait, quoi. Comment faire aujourd'hui pour se consacrer et ne pas faire comme Israël l'a fait quand ils ont magistralement raté le contrat au pays de Canaan? On a lu tout à l'heure 1 Jean 2,15, de ne pas aimer le monde et tous ses attraits. Mais le meilleur remède, finalement, on reste dans l'Épître aux Romains, et ça prend tout son sens, c'est Romains 12, les versets 1 et 2. Ça, c'est le socle et la base de la vie chrétienne, en fait. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà en fait la clé pour réussir dans notre relation avec Dieu. D'abord la consécration, ne pas se conformer à ce monde-ci, comme on vient d'en parler maintenant, mais tout le monde est déjà bien conscient de ça, je pense, hein. Le renouvellement de l'intelligence est important pour nous, et ça, elle se fait dans notre relation avec Dieu, dans notre vie de prière, dans la lecture de la Bible, dans l'étude de la Bible, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. On doit discerner cette volonté de Dieu, parce qu'il y a tellement de chemins qui se présentent à nous, la route qui mène vers lui est étroite, le sentier est escarpé. Ce n'est pas une large voie bien ouverte, bien droite. Ceux qui s'engouffrent par là vont vers la perdition. On ne doit pas suivre ce que le monde propose, mais on doit écouter ce que Dieu dit. Et évidemment, ça nous oblige à ne pas vivre en phase totalement avec le monde autour de nous. Romains 12, 1 et 2, je dis, c'est le socle de notre vie chrétienne. C'est là-dessus qu'on peut construire et bâtir notre vie. C'est la seule solution pour nous y arriver. C'est le besoin aussi d'être radical avec un péché. S'il y a un péché dans notre vie qui est là, qui nous empoisonne l'existence, il n'y a qu'une solution. Rappelez-vous Jésus, si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. C'est énorme comme image, hein. Mais ça veut tout dire par rapport au péché, en fait. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon pour nous au travers de cette histoire-là, l'histoire du peuple d'Israël, les païens qui entrent, je veux dire, eux sont obligés d'avoir des œuvres, d'obéir à une loi, et les autres, juste par la foi, ils reçoivent le salut. Tout ça, ça fait beaucoup de difficultés, et ils butent toujours sur cette pierre d'achoppement, qui est Jésus-Christ. Ce qu'on peut retenir de tout ça, en premier, c'est que la sainteté de Dieu, elle est non, comment je veux dire, elle est incontournable. On ne peut pas en faire abstraction. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ça, tout ce qui est impur lui fait horreur et est une abomination. Au point qu'il fallait dévouer des populations par interdit, et ce qui y existait comme objet de culte, or, argent, tout ça, ne pouvait même pas entrer dans les maisons, ne pouvait même pas être repris. Ça va très loin, hein. Et on peut réfléchir et se dire, si moi je serais à leur place, si j'avais été à leur place, est-ce que j'aurais été aussi loin? Probablement qu'on aurait désobéi aussi, je pense. La deuxième chose qu'on peut retirer de là, c'est que l'obéissance au commandement, elle est pour notre bien et pas pour nous emmerder. Excusez-moi l'expression, hein. Mais elle n'était pas là pour nous emmerder. Si eux avaient obéi, s'ils avaient détruit ces populations-là, aussi dur que ça peut paraître, ils n'auraient pas vécu tout ce qu'ils ont vécu là. Mais bon. La troisième chose qu'on peut retenir de là, c'est que malgré toutes ces choses-là, la grâce et la miséricorde de Dieu nous sont quand même acquises, malgré nos faiblesses et malgré le fait qu'on pêche encore. La quatrième chose que j'ai retenue, c'est que le garant de l'alliance, c'est Dieu. Et c'est tant mieux pour nous. Parce que si c'est nous les garants de l'alliance, il y a toujours un temps de l'histoire serait finie. Dieu garantit l'alliance par laquelle on est unis à lui. On peut lâcher sa main, on peut parfois s'asseoir au bord de la route, mais c'est lui qui viendra nous relever. C'est lui qui va nous prendre par la main. C'est lui qui parfois qui va nous porter et pour nous amener vers la Jérusalem céleste. Ça, c'est le parcours. La vie chrétienne, c'est une dynamique. Ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui est en route. On va vers quelque chose, on part d'un endroit et on va vers un autre endroit. Il est dit qu'en fait, on va en fait vers cette Jérusalem céleste. On va vers vers la nouvelle terre et vers les nouveaux cieux. Et ça, c'est notre destination. Le chemin est parsemé d'embûches. Il y a beaucoup de difficultés, mais il est avec nous, il nous accompagne. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que on sert un Dieu qui est un Dieu très saint. Évidemment, on a ce problème de péché encore avec nous, hein, et on vit dans une période où la grâce, je dirais, permet de passer au-dessus. Mais par rapport au péché avec lequel nous avons des difficultés, nous devons être radicaux. S'il y a quelque chose dans notre vie qui est vraiment problématique, s'il y a quelque chose de lourd, eh bien, il faut être radical avec. Ce que je vous propose, c'est que je prie et qu'on prenne peut-être quelques instants, qu'on se positionne peut-être par rapport à ce qui se passe dans nos vies et peut-être se remettre un peu en question aussi. Alors, je vous demande de vouloir vous incliner. Eh bien, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous enseigne, Seigneur, qui nous montre à quel point tu es un Dieu saint, mais tu es aussi un Père miséricordieux. Et Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, ce matin. Et évidemment, nous t'avons demandé pardon pour nos péchés, mais peut-être je veux te prier, Seigneur, pour si quelqu'un a un péché particulier dans sa vie qui ne parvient pas à se débarrasser. Père, je demande que par ta grâce, Seigneur, tu lui viennes en aide et que tu le délivres, Seigneur. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, et moi en premier, nous puissions être obéissants et écouter ta voix. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre avec toi pour l'éternité, Seigneur, passer aux noces de l'agneau, Seigneur, nous réjouir ensemble de ta présence. Seigneur, je veux te remercier pour la louange ce matin qui nous a fait du bien, Seigneur, qui nous a transportés. Merci pour cette parole également, Seigneur, que tu nous as donnée. Et peut-être que ce n'était pas toujours clair, peut-être pour certains, Seigneur, et je te demande pardon pour ça. Mais je prie, Seigneur, que dans nos cœurs, tu scelles, Seigneur, les points qui sont importants et que tu nous amènes, Seigneur, à prendre des décisions, peut-être radicales, mais qui seront en bien pour nous. Je te remets chacun d'entre nous. Je te demande de bénir, Seigneur, nos familles respectives, de bénir chacun qui est présent ici. Je te demande de nous raccompagner, Seigneur, chacun d'entre nous, dans nos maisons, en toute sécurité. Et surtout, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous également. Amen. Je vais laisser la parole à Charles, alors, pour les annonces.